Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. Épisode numéro 158 déjà? Non, 157, simplement. Ouf, je vais aller plus vite que la musique. Nous sommes toujours le 10 mars 2026. Je suis Horacio González et je suis toujours entouré de trois personnes merveilleuses. Qui se cache derrière cette tasse à 5 API? C'est Ludovic Dussard. Ludovic, tu es là?
Bonjour Horacio, rebonjour. Enchanté.
Qui se cache là derrière cette inspirante phrase sous travailler de l'obscurité? Encore une fois, il s'agit bien de Erwan. Coucou Erwan.
Bonjour à tous.
Et j'ai de mal à identifier derrière quoi il se cache notre dernier invité. Mon Dieu, ça semble, on dirait une mini Super Nintendo. Mais c'est fou, qui peut se cacher derrière? C'est Aurélien. Bonjour Aurélien.
Bonjour à tous.
Donc, merci d'être là encore une fois pour cet épisode. Va faire un petit tour de table. On change les sens cette fois. Aurélien, tu peux commencer. Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais?
Bonjour à tous, moi c'est Aurélien Hébert, donc je travaille à Clever Cloud dans l'entreprise de base de données. Dans l'entreprise de base de données, non.
Bien, on va les garder pour les petits shorts.
C'est ça, voilà le petit mélange. Donc l'entreprise de cloud informatique et dans l'équipe de base de données. Voilà. Donc on gère les diverses bases de données. Que ce soit du PostgreSQL, MySQL, Elasticsearch, Redis ou encore Mongo.
On va passer la main à Ludovic. Ludovic, tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Bien sûr. Donc moi, c'est Ludovic. Je suis co-CTO d'une jeune ESL lilloise qui s'appelle ZatSit. Mais sinon, je suis consultant et archi depuis une petite quinzaine d'années d'expérience. Voilà. Et donc, je fais aussi de l'open source et notamment, je suis ambassadeur et Sync API pour les gens qui connaissent.
Bah, merci d'être là avec nous, Ludovic. Et Erwan, tu es revenu? Erwan, ici la Terre?
Yes! Est-ce que vous m'entendez? Alors, bien?
On t'entend, c'est déjà ça. Racontez-nous okay, qui tu es, que tu fais et pourquoi tu as ce souci de connexion, peut-être parce que tu es vraiment très loin.
Alors, je suis vraiment très loin de vous, mais proche du cœur, comme toujours. J'ai la chance et le plaisir d'être à Hanoï, au Vietnam, puisque j'ai participé à une conférence Forkit à Hanoï vendredi dernier. C'était extraordinaire. Rencontré plein de gens super, discuté bonne tech, bu un peu de bière.
Bon, bah. Et dans cet épisode, on a plein de sujets à traiter, donc sans plus de retard, Ludovic, de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Raconte-nous.
Eh bien, je voulais introduire plutôt un sujet associatif, puisqu'on est le 10 mars, et donc il y a une initiative qui a pris de l'ampleur ces dernières années qui s'appelle le Podcaston. C'est une initiative qui commence le 14 mars, et donc pour les gens qui ne connaissent pas le Podcaston, l'idée c'est de mettre en relation des podcasteurs avec des associations pour qu'un épisode soit dédié à l'associatif et puisse mettre en avant une cause associative pour aider. Ça me tenait à cœur d'en parler puisque l'événement commence là dans 4 jours. Pendant une semaine, donc il y a pas mal de podcasteurs en France et cette année il s'ouvre à l'international, donc dans 4 autres pays il y aura plus de 3500 podcasteurs je pense qui vont mettre en lumière des associations, et donc une initiative plutôt très cool.
Bah, si c'est semaine prochaine, je pense qu'on pourrait enregistrer un épisode spécial si quelqu'un asso qui a envie d'être mis en avant côté Massy. Carrément, merci pour les liens, j'étais complètement passé à côté. Merci beaucoup pour l'info.
Avec grand plaisir.
Aurélien, l'épisode précédent, tu nous avais parlé d'Elastic, mais je pense que tu avais aussi quelques news côté PG, non?
Tout à fait. J'avais une nouvelle côté PG, notamment avec la sortie de la 18.3. Il faut savoir que c'était une release hors cycle qui a eu lieu du coup là fin février. Et ce qui les a obligés à sortir en fait une nouvelle release parce qu'ils ont introduit des régressions avec notamment les divers patchs de CVE qu'ils ont fait lors de la 18.2. Mmh. Et donc ils ont dû introduire un peu en urgence un correctif sur la 18.3. Et donc c'est pour ça qu'ils ont prévu une nouvelle release en dehors du cycle classique de release parce que PostgreSQL a des releases prévues de façon régulière qui sortent. Et là, ils ont dû en sortir une un petit peu en avance de phase. Et je tiens aussi à préciser pour ceux qui nous écoutent et qui managent du PostgreSQL, donc ce sera peut-être un peu tard, mais il y a des procédures différentes de mise à jour sur cette nouvelle version 18.3. Si on passe par exemple d'une 17 à une 18.3, il n'y aura pas trop de soucis. Mais si on avait déjà déployé une version 18 en 0, 1 ou 2 et qu'on fait une install locale de la base de données Postgre, il va falloir exécuter certaines actions pour corriger le catalogue PG qui était défaillant sur ces versions-là. Et qui pouvait avoir du coup des fonctions qui ne s'exécutaient pas correctement liées au format JSON de PostgreSQL.
Et dans les cas de SQL Canal et base payée chez Clever, comment est-ce que vous savez gérer ça côté team base de données?
Alors il y a deux cas. Pour ceux qui utilisent l'outil de migration classique de la console, il n'y a pas de problème puisqu'en fait on refait une nouvelle installation en version 18.3. Donc il n'y a pas de. Ils ont juste à lancer une migration et tout va bien se passer. C'est plus pour certains clients qui ont des mises en place des installations custom, où là effectivement il faut passer par nous et nous occupons de la maintenance sur la base. Mais j'ai envie de dire, pour ces cas-là, c'est classique, c'est ce qui est déjà fait de base.
Nickel. Donc c'est plutôt pour les gens qui ont des installs locaux et qui sont en 18 qu'il y a une procédure particulière à regarder, c'est ça?
C'est ça, et s'ils n'ont pas eu la notification du changelog, d'aller le regarder et de voir, c'est faire un update du catalogue PG, donc c'est assez rapide à faire, mais en tout cas, c'est bien de le savoir.
Oui, carrément. Et tu avais aussi un autre outil autour de Postgre, duquel tu voulais nous parler, non?
Tout à fait. C'est très rigolo, puisqu'effectivement, Horacio m'a invité au Massy, et je me demandais de quoi est-ce que je vais pouvoir parler hier. Et on a eu le cas d'une table qui grandit, et de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire et de quelles sont les solutions un peu alternatives. Et il y a un outil que j'ai vraiment très très envie d'aller tester et d'aller utiliser de plus en plus, c'est PGDog. PGDog, qu'est-ce que c'est? C'est un outil un concurrent un petit peu de PGBouncer ou de PGPool 2. Mmh. Sauf qu'il a l'avantage de pouvoir essayer de mettre en place au niveau du coup du proxy, donc avant d'aller dans la base de données, du sharding, et donc ce qui nous permettrait d'avoir une sorte de scaling horizontal et donc de diviser les instances de PostgreSQL sur plusieurs nœuds. Donc okay. Ça c'est la promesse aujourd'hui de PGDog, et donc là c'est pour ça que je suis vraiment très enclin d'aller tester l'outil. Et si d'ailleurs des auditeurs ont déjà testé PGDog ou du feedback à nous transmettre sur cet outil là, moi je prends évidemment, mais en tout cas j'ai pas encore eu le temps d'aller tester et de voir si en remplacement de PGPool ou de PGBouncer ce que ça apporte en termes de performance, mais aussi ce côté-là de scaling horizontal et de sharding. En tout cas, c'est la promesse de l'outil.
Sur les papiers, c'est une promesse chouette, quoi.
C'est ça. Je regardais un peu les possibilités qu'il y avait sur ce problème-là et du coup, j'ai découvert cet outil-là. Donc, j'en profite pour le partager ici. C'est une alternative parce qu'aujourd'hui, il y avait déjà des extensions PostgreSQL qui permettaient de faire du sharding comme Citus, par exemple. Donc, c'est une alternative un peu différente. Et je pense que ça vaut le coup de regarder et de se pencher sur ce setup-là. En tout cas, pour le futur, ça ressemble intéressant, en tout cas. Donc là, le blog post est très récent. Je crois que c'était, je sais plus c'est quoi la date que je t'ai mis, Horacio, mais
oui, c'est un article assez récent. C'était il n'y a pas longtemps, quelques semaines. Je vérifie en allant vite fait. Non, les blog posts, c'était fin d'année dernière, en effet.
Fin d'année dernière, c'est ça. Ouais.
Ok, un outil à les regarder. Et si vous savez, si quelqu'un qui nous écoute a des retours, on est preneur dans les commentaires, carrément. Bon, bah, et tu avais aussi un petit message à faire passer autour des inversions de MySQL et End of Life, non?
Tout à fait. En avril, MySQL va release la version 8.0.46, qui sera la dernière version LTS de la version 8.0. Donc la 8.0 va devenir End of Life. Donc si vous l'utilisez, il va falloir prévoir des upgrades vers la version 8.4, qui est déjà LTS. Et sinon, normalement, ils ont prévu de release aussi, je crois, c'est la version 9.7 à vérifier à vérifier en tout cas sur le site de MySQL, qui sera une nouvelle version LTS côté MySQL dans l'année. Donc normalement, à partir de mai-juin, il y aura une nouvelle version LTS côté MySQL, puisque MySQL font des versions expérimentales. Oui. Donc ils continuent de faire plein de développement. Et après, ils passent sur une version LTS au bout d'un moment. Mais ils ont déjà tout un cycle de prévu. C'est très différent de comment fonctionne PostgreSQL. Mais
historiquement, c'est un peu orthogonal la façon de marcher d'été, oui.
Oui, puisque les versions LTS de MySQL, c'était la 5.7, la 8.0. Là, maintenant, c'est la 8.4. Et on aura sûrement la 9.7. Donc, voilà.
Oui. Ça aurait été tellement plus simple de faire des versions meilleures comme LTS, mais voilà. Parfait, bah merci beaucoup. Et Erwan, tu m'avais dit, j'ai plein d'outils à vous parler. Et par lesquels tu veux commencer?
Bah écoute, j'ai pas mal de petits outils rigolos. Il y en a un que j'ai commencé à pas mal utiliser parce que la vie du digital backpacker, elle n'est pas simple. Même si des fois la carte postale est jolie, on est souvent dans des situations où il faut travailler sur le téléphone ou travailler sur un coin de chaise à l'aéroport. Et souvent, quand tu dois travailler des PDF, ben, ok, j'ai pas l'outil dessus, j'ai pas envie de me faire un PDF TK en ligne de commande, j'ai besoin d'un truc quick and dirt. Et j'ai pas envie d'utiliser non plus d'envoyer mes PDF sur des services de Shadow IT à la con où je vais exporter de la data je ne sais où, je ne sais quoi. Donc j'ai cherché un peu et je suis tombé sur un outil qui était franchement pas mal, qui s'appelle Bento PDF. Bento comme la boîte japonaise.
Comme
là. Voilà. Et PDF comme le PDF.
Comme PDF.
le truc, c'est assez bien fait parce que du coup, t'as tout. T'as besoin de faire une rotation, t'as besoin de faire un peu d'OCR, t'as besoin de faire des extractions, rotations, coupages, découpages. C'est basique, c'est simple, ça marche, ça s'installe, c'est du node, donc c'est un gros coup de NPM et puis c'est fait. C'est confort et puis c'est surtout responsive design. Donc du coup, moi j'ai ma petite instance qui tourne sur mon run Clever. Et puis, bah, quand j'ai besoin de faire un truc, je suis dans le taxi ou sur une motobike, comme par exemple là, ici au Vietnam, et bah, même sur la motobike, bah, je peux quand même me splitter mon PDF, me préparer sur ma réunion. Je ne dis pas que ça m'arrive souvent, mais je mentirais si je dirais que ça ne m'est pas arrivé.
Donc, en gros, c'est une petite web app que tu installes quelque part.
Voilà.
Et OK.
Tu uploads ton PDF ou tes PDF, tu fais tes assemblages, tu cliques sur télécharger, tu récupères ton bébé qui est fait et c'est sous ton contrôle. Ça garde rien, t'es tranquille. Et puis, bah, tu vois, c'est une petite instance. Donc, je crois que ça tourne sur Linux chez Clever. Donc, ça me coûte quoi, 5 balles.
Mais c'est un projet assez récent. Entre septembre de l'année dernière et maintenant, ils sont à plus de 11 000 étoiles sur GitHub. Ouais. Donc, une croissance assez fulgurante.
Non, mais si tu veux, c'est des outils qu'on connaît tous, enfin, tu vois. Mais tu n'as pas besoin de te dire, est-ce que j'ai un Adobe PDF? Tu vois, pour moi, c'est des trucs, tu vois, le lecteur PDF de Firefox aurait dû déjà tout avoir déjà dedans, mais la fonction n'y est pas, donc ça fait chier. Pardon, ça, c'est chiant. Et du coup, le truc, c'est quand même de se dire, bah, oui, mais tu tapes Resize PDF, Compress PDF sur Internet. Regarde, fais un petit dig de où ça pointe ces sites-là. Juste pour le fun, regarde le géo DNS où ça regarde. Tu serais surpris que tu vas voir être dans beaucoup dans des pays à démocratie libérale forte. Donc c'est intéressant. Je veux dire, le Shadow IT, ça concerne toutes les boîtes. Moi, j'ai bossé dans l'éducation et je peux vous garantir que des données de gamins qui se retrouvent sur le web parce que les profs ou les parents sont des buses, fini, j'ai été poli, voilà, c'est complexe. Là, en tant que DSI, en tant que responsable sécurité d'une boîte, avoir un outil sous ton contrôle qui ne te coûte rien, tu le mets, tu dis, les gars, c'est par là que passent les PDF si vous avez besoin de faire des trucs. Tes utilisateurs, ils te diront merci parce qu'ils auront un outil. Et toi, tu es sûr qu'ils feront moins les cons. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas.
Et dans les... plus dans la page, il s'explique que le traitement est fait côté client. Donc, le serveur va te fournir les fonctionnalités de traitement, mais le PDF ne monte pas à ton serveur, même à ton serveur à toi, quoi. Il reste côté client, apparemment. Non, ça a l'air extrêmement intéressant. Enfin, une solution pour s'occuper des PDF sans devoir demander encore à Claude comment est-ce que j'utilise ce PDF TK que j'oublie à chaque fois que je dois l'utiliser. Bon, peut-être que je suis le seul qui a de mal avec la syntaxe de ce type d'outil en ligne de commande.
Non, je me fais un peu penser à Comicstrip.
J'ai un peu le même, j'avais un peu la même galère avec les conversions d'images en WebP pour avoir des images compressées où tu as des sites où tu ne sais pas où tu plottes tes images. Et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que Inkscape permet de faire des exports hâtifs et WebP. Et donc maintenant, je les charge en local et je fais des exports en local.
Mais Inkscape, c'est un outil qui, oui, il est vieux, mais on ne parle pas assez. C'est un incroyable. Vrai petit bijou.
Oui, tout à fait. C'est, moi, je connais quelqu'un qui nous a beaucoup montré Inkscape. Il est là dans le call du Massy, Ratio, qui m'a montré beaucoup de choses sur Inkscape. Et que
moi, ça fait 20 ans que j'utilise pour faire des dessins vectoriels. Et waouh, c'est un des outils open source que j'ai le plus utilisé dans ma vie.
Et avec GIMP, on ne peut pas faire du web
J'ai pas testé GIMP. C'est vrai que si je peux faire avec Inkscape, je me porte mieux, quoi. Si je suis pas obligé de sortir GIMP, ça va, mais c'est préférence personnelle.
Ouais, après, ouais, sinon un coup d'image magique, comme ça on les aura tous cités et on favorise aucune marque.
Oui, mais image magique, à nouveau, le même problème, c'est je suis assez incapable de me souvenir de la bonne syntaxe.
Ouais. Pareil. Pareil. Mais non, bon, bah écoutez, Bento PDF, vraiment un super outil, c'est... je recommande.
Donc Bento PDF, un petit rappel que Inkscape existe et que c'est chouette. Et tu avais d'autres outils à nous parler? Alors, deuxième, allez.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle, je me dis. Je crois que c'est important qu'on remette une couche sur le sujet. Vous pouvez me harceler sur X, je fais partie de la team pro IA. Je trouve que c'est... j'aurais eu ça il y a 10 ans, je détruisais le monde. Voilà. Juste pour... voilà. Là maintenant, je suis sage et j'ai l'IA, c'est cool. Mais un truc que j'aime bien faire avec l'IA, c'est toujours aller la tester sur des domaines où, ok, le code c'est bien, c'est cool, mais c'est bien documenté. Et des fois, il y a des trucs, c'est un peu moins documenté, comme l'électronique. Et l'électronique, j'aime bien, parce qu'on a des data sheets, pour ceux qui ne connaissent pas, n'importe quelle puce, n'importe composant a une fiche de données, et dedans, il y a tout. Il y a tout, la sa tension, combien il peut prendre dans la tronche, comment ça se programme, si ça se programme, et des exemples de schémas et de trucs comme ça. J'aime beaucoup faire de l'électronique, surtout pour des petits trucs qui ne servent à rien, donc qui sont indispensables dans ma vie. Et récemment, j'avais besoin de fabriquer un truc, vous savez, pour coller sur des t-shirts en faisant une presse à chaud. J'ai une gamine et voilà, j'aime bien faire des custom conneries. Et plutôt que de prendre le fer à repasser toutes les 5 minutes pour faire le machin, je me suis dit, je prends une presse à chaud, je contrôle le truc avec un micro électronique. Donc, c'est un contrôle PID, proportionnel, intégral, dérivatif. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... je lance un pendule et je l'arrête là. C'est genre, je lui demande une température, comment j'évite d'overshooter, sous-shooter. Sous-shooter, c'est une très belle expression.
On a compris.
Et l'idée, c'était de faire ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train de réfléchir. Mais est-ce que j'ai besoin de réfléchir? Est-ce que je ne demanderais pas à Claude, tu as accès au plugin Chrome, Donc, il faut savoir que je n'utilise Chrome que pour enregistrer les massis, c'est vous dire le sacrifice que je fais tellement j'aime parler aux massis. Et maintenant pour Claude, parce que sinon c'est Firefox or died. Mais là, je lui ai dit, écoute, voilà l'idée du projet. Je l'ai bien contraint dans tous les trucs en disant, faut pas que ça coûte une blinde, c'est un projet à la con. Je veux que ça soit simple, maintenable, etc., etc. Va me sourcer tout sur un site chinois qui est à Shenzhen et qui est cool et qui s'appelle Ali quelque chose. Et je lui dis, vas-y, va me trouver tout après les datasheets par rapport au prix, par rapport au machin, fais-moi le projet. Et sur Claude, je ne sais pas si vous connaissez cette fonction, mais il y a la fonction, je ne sais plus comment elle s'écrit parce que je suis une brêle en syntaxe, mais en gros, j'accepte que tu fasses n'importe quoi et je te laisse tourner toute la nuit.
YOLO.
Ce n'est plus mon
problème. C'est ça. C'est ça. Et là, la fonction ne fait pas ça dans ton ordi si tu veux conserver ton ordi. On en parlera tout à l'heure de ça, oui.
Et là, je vous jure, no bullshit, no storytelling. Le truc, j'ai quand même passé une heure à lui donner les specs. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, quand je lui ai donné le délire, il m'a dit contexte left 39%. C'est-à-dire que juste mon délire, ça a été 61%, je suis une brêle en maths, 61% du contexte. Le contexte, c'est ce que l'IA est capable d'ingérer, de travailler, de vomir en probabilistique. Donc là, déjà, j'étais chaud, mais je lui ai dit, vas-y, moi, je vais me coucher. Il est quand même 4 heures du matin et j'ai autre chose à faire de ma nuit. Et là, il est parti. Mais quand je vous jure, il est parti. Il a fait le panier AliExpress. Il n'a pas commandé parce que je n'ai pas ma carte bleue d'enregistrer, parce que je ne suis pas un con. Un abruti, pardon. Et le truc qui était dingue, c'est qu'il a repéré donc, un ESP32 avec un écran intégré, vous savez, c'est kit dev, tout fait et tout. Mais il a repéré aussi que ce modèle-là, il était référencé sur un GitHub. Donc, il y avait déjà la librairie qui était cool, mais qu'il y avait un bug dans la carte. Donc, le mec m'expliquait déjà qu'il fallait que je coupe la trace du CPU et que je ressoude une résistance parce que je ferais passer les cycles CPU à 99% tapé du plafond à que 13%. Ensuite, il m'a dit, la carte, elle est compatible d'une librairie que je ne connaissais pas, LVGL, et qui, en gros, une pré-moteur construit d'interface graphique, que je vais paramétrer le truc en disant que c'est jQuery UI de l'électronique. Pareil, m'en voulez pas pour la réduction, mais
comme ça, je vois. OK.
Et là, le truc, il m'a fait la mock-up en SVG de à quoi allait ressembler l'interface. Il l'a codé et il m'a dit, maintenant, mec, il n'y a plus qu'à pousser le code. J'ai mis 3 semaines à avoir mes affaires. Le code était un peu pété à 2-3 endroits. Il a fallu le retoucher. Mais ça s'est fait en rien de temps. Enfin, je veux dire, et les blocs qu'il a trouvés étaient déjà pré-percés. J'ai mis les éléments chauffants. Il y avait la colle, la pâte thermique pour mettre les éléments chauffants. Il m'avait trouvé un système de presse. Enfin, tout a été fait. Genre, j'ai juste vomi une bonne idée, bien construite, certes. Mais il est parti en mode YOLO. J'ai jamais vu ça. Et c'était un Claude Code au puce 4.6. Donc, qu'est-ce que ce sera demain?
C'est impressionnant. J'aime bien ton retour d'expérience. Par contre, ton mode YOLO, justement, maintenant, il y a de plus en plus de use cases dans lesquels le mode YOLO, c'est sympa, qui ne te parle même pas d'un petit open cloud de famille. On a toujours une réticence, à moi en tout cas, je n'aime pas les mots YOLO sur mon ordinateur. J'adore Claude, mais je ne le fais pas confiance à ce point-là.
Moi, ce n'est pas mon ordinateur, c'est celui du travail.
Voilà. Cantant, tu n'as rien entendu.
Et justement, c'est pour vous.
Je suis tombé sur une petite distrib Linux hier en regardant qui s'appelle StereoS. C'est une distrib Linux minimaliste et un peu blindée, pensée justement pour des utilisations avec des Cyan IA. Donc, je vous la laisse là. Je n'ai pas eu le temps de tester, mais sur le papier, ça pourrait être une des solutions à ce que je voulais. Je n'ai pas envie de laisser mon petit ordi Par contre, mettre une machine virtuelle et une petite instance dans laquelle je contrôle à 100% ce que je mets à disposition et là, activer le mode YOLO, je suis beaucoup plus friand de l'idée.
Tu as tout à fait raison, c'est une très bonne
idée.
Je n'ai pas
de credentials, je mets simplement le minimum dont il a besoin et après, va tourner, petit Saiyan, tourner. Aller refaire le monde, mais n'essayez pas mon ordi.
Bah, surtout mais quand tu remarques que déjà tu rajoutes des règles de deny, des fois il essaye de les bypass quand même. Tu dis bon, ouais, non, le mode YOLO, non, ouais, je pense qu'aujourd'hui.
Oui, mais bien surtout évidemment.
Surtout bah, par exemple, quand nous on opère des systèmes de base de données, ça c'est complètement interdit, quoi. Genre, l'accès à l'ordinateur, non, c'est, il n'a pas le droit.
Bah, j'ai vu qu'il y en a un qui a perdu comme ça 2,5 millions de data dans un transfert AWS en mode YOLO fait par l'IA.
Ouais.
Donc, là, c'est pas de la faute de l'IA. Hein. Tu veux dire, t'as lancé la voiture sans pilote. C'est pas de la faute de la Tesla. Hein. Enfin...
Mais Carleman, avoir une petite instance Linux sur laquelle tu travailles, qu'il n'a pas accès à ton compte GitHub, par exemple, dans lequel tu mets ton environnement de travail, tu le laisses autonomie complète, mais au pire, bah, il te bousille ta session de travail, il te bousille rien d'autre. Quitte à si c'est des instances minimalistes, tu peux avoir sur ta machine une machine virtuelle par projet, et ton petit cloud il reste centré sur ton projet. Je pense que je suis peut-être un peu paranoïaque, mais je me sens beaucoup plus rassuré quand je limite les possibles dégâts. C'est pour la même raison pour laquelle je ne donne jamais de droit de commit à mon cloud. Le commit, c'est moi qui le fais manuellement. Toi, tu me génères des choses, tu me bousilles mon workspace local au pire, mais tu ne touches pas à ma source de vérité.
Et puis surtout, c'est une grande aide aussi pour tout ce qui est scénario de test, etc. Et bien, il faut rappeler quand même que tout ce qui est critique, c'est bien qu'aujourd'hui, ce soit encore géré par de l'humain. Voilà.
J'ai lu récemment un cas, vous l'avez peut-être vu passer vous aussi, mais où un mec avait donné toute sa code base d'un projet open source qu'il maintenait, il lui a dit « Vas-y mon lapin, réécris ». Le truc avait réécrit tout le code, changé la licence, passé d'une MIT, non, ben d'une AGPL à une MIT, il restait plus qu'1,6% du code originel, tu vois. Et là, en fait, il y a des mecs qui se posent la question. Je ne sais pas si vous connaissez ce chemin de pensée qui s'appelle le bateau de Thésée. Vous avez un bateau dans un musée, il pourrit, si tu te mets à changer planche par planche, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée à la fin, tu vois? Tu vois ouais. Ce que je veux dire, c'est que tu as changé toutes les planches. Et la question, elle est posée, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que si j'ai un projet open source qui est protégé par ces belles droits, licences, AGPL, whatever, qui sont cool et qui sont bien, mais si l'IA peut réécrire le truc où il ne reste plus que 1,6% d'autocomplétion, donc autant dire que c'est peanuts, changer la licence, est-ce qu'il y a toujours une filiation? Est-ce que je peux me permettre de changer la licence comme ça? Enfin, tu vois, est-ce que du coup, et là c'était l'interrogation de l'article, de est-ce qu'on ne va pas vers un open source AI apocalypse où on va se retrouver à avoir des clones de clones de clones parce que on les a justement laissé faire tout et n'importe quoi et que le commit, bah, justement, ça n'a pas été l'humain derrière à la fin. Mais je ne sais pas.
En tout cas, plein de committers, plein de maintainers open source ont des problèmes avec des centaines de pull requests dans des projets qui avaient peut-être une pull request par année, maintenant ils sont centaines par semaine générés par IA et souvent sans beaucoup de cohérence. C'est pas le problème d'avoir plein de pull requests, c'est que chacun de ces pull requests, bah, en général, c'est un peu plus grand et un peu plus complexe que ce qu'on devrait attendre. Il ne résout pas un issue, il te réécrit la moitié de repos à chaque fois et tu ne sais pas combien, quel pourcentage de ces pull requests sont en plus malicieux.
Ouais, c'est exactement ça.
Donc, c'était voilà. Quand même souvent la stratégie comment est-ce que tu arrives à introduire des failles dans certains logiciels open source, c'est en enchaînant plein de petites PR, puis tu finis par réécrire une partie du code, et là après tu peux avoir la légitimité pour finalement sur une PR qui va pas être très bien review, faire une PR de syntaxe entre guillemets, et en fait t'introduis une faille, et ça c'est déjà le cas qu'on a déjà vu en open source, et là demain avec l'IA ça va être encore des choses qui vont être encore plus facilement possible. Et je parle pas de, là on le voit, côté base de données avec les divers changelogs, où tu as quand même pas mal de choses qui sortent, qui sont liées à des correctifs, etc. Donc potentiellement, il y a déjà un peu de code qui arrive et qui n'est plus autant relu ou autant testé qu'à une certaine époque.
Ouais, mais à l'opposé, j'ai envie de te dire que là, j'ai un article qui dit que là, Cloud Code a trouvé 22 failles critiques dans Firefox et qu'il les a patchées. Donc, si tu veux, c'est un peu le pharmacon, tu vois, ce qui sauve et ce qui est poison. Et l'IA, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est le pharmacon. C'est-à-dire que oui, l'IA, elle peut aussi empoisonner, mais elle peut aussi soigner. En fait, rien n'est question de poison, tout est une question de dosage, comme on dit en science.
Après, ce que je disais, c'était pas forcément l'IA, moi, que je mettais en cause. C'était plutôt des stratégies humaines qui existent déjà aujourd'hui. Et qui vont pouvoir être amplifiés avec l'IA, et que du coup, quand on est maintainer de projets open source, et que en fait, on n'était pas forcément habitué parce qu'on avait, comme le dit Horatio, une contribution par an, on se retrouve à devoir gérer plusieurs dizaines de contributions, et ça peut devenir compliqué, surtout pour les personnes qui sont pas forcément habituées. Et c'est là où effectivement, je signalais plutôt ce risque-là d'un point de vue maintainer de repo open source. Voilà, c'était pas le c'est pas l'IA pour moi, c'est un outil en fait, mais derrière la personne qui fait la contribution doit être tenue responsable, hein. Mais c'est juste que si cette personne là a des envies de nuire, c'est carrément possible aujourd'hui, surtout encore plus avec des gens qui vont pas forcément faire attention ou suffisamment bien être au courant des risques, quoi.
On l'a vu avec la faille XZ il y a un an ou deux, hein. C'était le même délire, hein, une brique open source critique maintenue par un seul gars et qui s'est fait empoisonner par la source, quoi. Et après c'était fini, hein. On vit un monde merveilleux, mais c'est là où tout change et c'est là où ça change vite et c'est cool, mais il y a encore des dangers. Ça nous force à changer nos paradigmes, ça nous force à sortir de notre zone de confort et je trouve ça cool.
C'est carrément cool. C'est un peu flippant par moment, mais carrément cool.
Oui, je me posais la question ouverte, hein, mais je n'ai pas forcément de réponse. Mais si peut-être qu'avec les différents justement organismes qui existent dans le milieu open source, c'était aussi l'occasion d'aller discuter avec ces organismes-là quand on est maintainer de produits open source et qu'on ne sait pas forcément comment gérer, quoi.
En fait, le problème, c'est tous ces projets-là qui... C'était un ou deux maintainers et qui avait peut-être, à part les maintainers, une des trois pull requests par année sur une des trois issues concrets. Et c'était déjà un travail considérable pour deux personnes maintenir un projet qui souvent était utilisé par grand monde. Et tout d'un coup, tu te retrouves avec un flux continu de plusieurs dizaines de PR par semaine. C'est impossible matériellement pour ces personnes-là de gérer. Et certains, c'est le cas des créateurs de Curl, par exemple, et on ne parle pas d'une bibliothèque quelconque, on parle d'une qui est à la base de tout sur Internet. Il a préféré dire non, il arrête d'accepter les contributions. Et de l'autre côté, philosophiquement pour moi, un projet open source qui arrête d'accepter des contributions, ça reste open source parce que la source est ouverte, mais il perd une partie de ce que pour moi c'est l'open source. Ça, c'est discutable. Open source, savoir une licence open source, d'accord, mais pour moi, un projet open source qui n'accepte pas de contribution, il perd une partie de son essence. Mais je ne peux pas blâmer les maintainers ou les créateurs en même temps. Donc, c'est des situations qui sont un peu, sous ce cas-là, perdant, je trouve. Déjà, est-ce que open source sans contribution, ça reste open source pour vous, par exemple? Question ouverte. Ludovic, qu'est-ce que tu penses?
Je pense que oui. Ensuite, ça fait écho un peu avec une interview du papa de VLC qui disait que lui, il avait le regard sur toutes les PR qui passaient pour d'autres raisons. Hein, parce que
oui.
VLC aussi utilisé pour faire des attaques au niveau des États. Enfin, il y a des ingénieries de piratage assez poussées sur cet outil-là. Mais je pense que sans contrib, un projet peut être open source. Le simple fait de pouvoir le proposer de manière libre, gratuite et avec le code source ouvert, quoi. Mais t'as raison, tu perds un peu le levier que tu as avec la communauté qui peut t'aider à le faire grandir.
C'est ça, ça reste open source, la licence est open source, mais il est une partie de l'essence et tout a l'air de Erwan parler d'une façon plus poétique que moi, que c'est ce côté-là de partage dans la co-construction pour moi, mais je comprends que beaucoup préfèrent on va fermer, on ne va pas courir de risques, on va limiter que les gens puissent proposer des issues, mais les PR, on les fait plus doucement, mais en contrôlant ce qu'on fait.
Mais l'open source, moi je dois tellement à l'open source, et j'ai tellement appris parce que j'ai pu lire le code des autres, j'ai pu comprendre des choses. Pour moi, c'est plus que du code, l'open source. C'est une base de nos démocraties, tu vois, si je dois pousser mes mains dans les orties. Et là, tu vois, je viens de découvrir un truc qui est super intéressant, parce que là, j'ai la chance d'être au Vietnam. J'ai pu retrouver un vieux copain à moi qui était mon prof de fac quand j'étais jeune et con. Et j'insiste sur le con. Et du coup, là, il m'a présenté un truc, là, rapidement, entre deux enregistrements de Massive, que je trouve extraordinaire, qui s'appelle le magazine eLife, en fait, et qui essaye de disturber un peu la façon dont la science, elle est partagée. Et là, pendant le Massive, j'avoue que j'en ai profité un peu pour lire ce que c'était, parce que je trouvais ça super intéressant. Je sais pas si vous savez comment ça marche, le monde de la science et des publications scientifiques. Parce que moi, avant d'être informaticien, j'ai mis les deux doigts dans l'engrenage dans ce truc-là parce que c'était très rigolo. Mais en fait, c'est un business. Et quand je vous parle d'un business, c'est un business qui se compte en plusieurs milliards de dollars, où en fait, vous avez des grands VC qui contrôlent les journaux et qui imposent qui sont les grands de la science, les vrais noms, les machins. En fait, bref, le game, il est truqué et ça permet pas forcément aux bonnes sciences de sortir. Et surtout, dès que toi, tu as besoin d'accéder à de la connaissance, tu es obligé de raquer le journal. Tu vois ? C'est-à-dire que la connaissance qui est le base commune de l'humanité pour qu'on s'aide à grandir, parce que va faire un vaccin si je ne te donne pas le code source du vaccin, mon lapin, et on verra si tu survis. Ben là, c'est un peu la même sauce en science. C'est-à-dire que si on ne combine pas toute la science, tous les cerveaux humains, et qu'on ne la donne pas accessible à tout le monde, on ne va pas s'en sortir. Et les mecs, ils ont monté un système pyramidal de business dessus. Et personnellement, je suis contre, mais ça, je pense que vous l'avez compris vu comment je viens de me lâcher. Mais du coup, là, je viens de trouver vraiment ce truc qui est dingue, qui s'appelle eLife. Et donc, les mecs, ils partent du principe, un peu comme l'open source, que je lâcherai mon document sur GitHub, tu vois. Mais je vais demander déjà à des experts du milieu de me faire la review de mon code. Sauf que là, c'est ma publication scientifique, c'est ce qui est équivalent d'un livre blanc en sécurité ou en database. Vous voyez le genre de truc. Un truc où c'est sérieux, c'est cadré, et puis c'est surtout, il y a de la bibliographie, il y a du matériel et méthodes, c'est censé être réplicable, et les résultats sont censés être discutables en communauté, en peer review, en peer-to-peer. Il n'y a quand même pas mieux que de l'open source pour ça. Et donc, du coup, les mecs partent du principe que déjà, il faut que ton truc soit cadré, bien fait. Et après, ils te font les reviews. Mais au moment où toi, tu estimes que ton papier, il est assez bon, comme si ton code est assez bon, eh ben, tu le publies. Et au moment où tu l'as publié, n'importe qui dans le monde y a accès gratuitement. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans un délire de « j'ai publié mon papier scientifique comme ça, et c'est que je dis des vérités scientifiques ou que je mente, parce qu'il faut savoir qu'il y a des, je suis désolé, là je vais être vulgaire, il y a des connards qui trichent en science et qui font perdre du temps et qui empoisonnent le puits, et ça existe. Mais là, on rentre, si tu veux, dans un système vertueux où on est véritablement certifié par ses pairs jusqu'à un niveau quand même de maturité scientifique, et après c'est donné à la communauté, c'est donné à l'humanité, tu vois. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire et ça fait un parallèle entre deux mondes que j'aime bien, et entre que la science et l'open source. Et je pense qu'il faudrait qu'on encourage de plus en plus ces modèles-là, Surtout que de l'open science, enfin la data science, l'info biology utilise de plus en plus de Python, d'outils open source. Et je pense que voilà, il y a un truc à faire. Et c'était, tu vois, mon petit HS de l'open source.
En ayant fait une thèse, je connais bien les systèmes, je connais bien toute l'idée de il faut publier à tout prix dans certains journaux et selon de ça, il y a plus ou moins de possibilités d'avoir un postdoc ensuite.
Et puis tu as la mafia des impact factors, c'est un racket en bande organisée.
Le système est carrément biaisé et il est carrément pas au profit de la science. Donc, effectivement, s'il y a enfin la possibilité que des principes de l'open source s'appliquent à la science, où déjà les peer review étaient la base de tout, je trouve que c'est excellent. Donc, merci pour les liens. Ce n'est pas du tout une digression, ça rentre très bien dans l'idée de open source aussi. Donc, merci, Erwan.
Mais derrière, c'est toujours un plaisir de parler de l'open source. C'est tellement, tu sais, ce monde caché. Tu sais, c'est pas pour rien que, tu vois, work in the dark to serve the light. C'est exactement ça, l'open source. On était au FOSDEM récemment à Bruxelles, début février. Mais tous les grands cerveaux qui font tourner l'Internet européen, mondial, sont là-bas. C'est ces génies de l'ombre qui sont ces anonymes à qui on doit tout et qui sont ignorés pendant que tu as des Mark Zuckerberg qui se font pincer les tétons et des Elon Musk qui jouent avec des fusées, qui sont des ingénieurs respectables. Hein, je veux pas critiquer. Mais si tu veux, moi, j'ai plus de respect pour un Wozniak qu'un Steve Jobs. Tu vois, c'est comme ça que je suis câblé. Donc voilà. Donc, petite discrétion.
Je comprends très bien et je remercie ta discrétion, carrément. Boba, qui va prendre le prochain sujet?
Moi, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Erwan. Aux API Days, il y avait le papa de Hot 2, la spécification de sécurité, qui est venu présenter justement son nouveau produit open source qui s'appelle Hello.coop. Et donc, en fait, lui, son credo, c'est de sortir un identity access management qui fait du SSO, mais qui gomme toute la complexité et tout ce qui est identity providing sur les SSO qu'on peut connaître, type lock et autres. Et j'ai trouvé son approche.
Hello.coop. J'ai noté et j'ai profité pour voir les sites. Ok, continue, ça m'intéresse.
Alors, j'ai pas eu le temps de tester, mais parce que je fais du Kicklock depuis très longtemps et j'adore beaucoup le produit. Et je pense que vous travaillez avec plus OpenID, donc il n'y a pas de sujet. Mais la proposition du coup de Hello.coop est plutôt cool et permet de pas avoir à déployer une usine à gaz pour mettre à dispo une OTAN pour tes utilisateurs. Donc, je voulais juste rebondir là-dessus pour faire écho à l'open source.
Ouais, c'est super intéressant.
Ouais.
Hello.coop, free SSO. Ok, écoute, là, je pense que je vais devoir passer un petit peu de temps sur ça.
T'as bien fait de m'inviter, Horacio, tu vois.
Ben non, mais déjà, il y a plein de choses, mais ça s'ajoute à la liste. À chaque fois, je pars de ma scie avec une liste de trucs à regarder. Ben, celui-là, je ne m'attendais pas, mais c'est cool. Carrément.
Ben, c'est marrant que tu parles de notre ami de Please Open It, parce que récemment, j'ai interagi avec Mathieu Passeneau sur un projet. Ceux qui écoutent de temps en temps Massy savent que j'aime bien faire n'importe quoi. Et récemment, je me suis mis à bosser sur un calculateur de bagnole. Tout dans la légalité, vous rassurez-vous, je ne fais jamais que des bêtises. Et donc, je regardais un peu ces systèmes-là parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant, de plus en plus, les bagnoles, elles sont fournies avec des fonctions que tu achètes en plus. Ce qu'ils appellent des FOD, des Function on Demand.
Des DLC ? Les voitures ont des DLC maintenant ?
Exactement. Donc, tu veux rajouter les phares automatiques, c'est une option. Donc, comprends, ça veut dire que tu as tout le fucking hardware dans la bagnole, mais tu es en plus obligé d'acheter ta bagnole que tu achetais le même prix que celle qui avait l'option avant. Je tiens à le rappeler, que tu vas rajouter 35 balles par an pour avoir tes phares automatiques, que tu vas avoir les sièges chauffants, que tu vas avoir les LED changeables de couleur de ta bagnole. Et là, au bout d'un moment, tu dis, attends, au final, c'est un port ODB, j'accède au calculateur, et en tout bien, tout honneur, je regarde ce qui se passe dedans. Bon, en tout bien, tout honneur. Et là, tu te rends compte que, mais le calculateur, il est bien protégé. Il y a plus cher dans le calculateur que dans toute la bagnole, j'ai l'impression. Si je prends les composants de sécurité, les puces TPM, les machins et tout, tu dis, mais attendez, mais pourquoi? Bon, moi, déjà, dès que tu touches à un business, c'est compliqué. Dès que tu touches au calculateur de la bagnole, c'est compliqué. Et je sais que Mathieu, lui, il bosse pas mal sur ces sujets-là, sur les tracteurs. Je sais pas si vous le savez, mais il y a des gens, ils font tourner des tracteurs avec des fonctions super cool qui aident les agriculteurs, mais qui donnent les données au groupe céréalier, il y a machin, il y a bidule. Et en fait, les mecs, quand ils viennent négocier vos achats de céréales, de maïs, ils disent, on sait déjà combien ça vous a coûté parce que votre calculateur, il nous a tout dit. Donc, on est des gens sympas, on vous laisse 10% de marge parce qu'on n'est pas des monstres. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que dès que tu enlèves un calculateur d'une bagnole, elle ne marche plus. Mais une bagnole, c'est mécanique, qu'elle soit une voiture électrique, que ce soit une voiture thermique. Je veux dire, c'est des impulsions. J'envoie le bon carburant, que ce soit un courant électrique ou un bon coup de diesel qui pollue, de l'air, de l'oxygène, je claque mon étincelle et yolo. On parle d'un relais et d'un timer et de récupérer les informations au bon endroit. Donc, ce n'est pas compliqué électroniquement parlant. Surtout quand on fait du PID avec un téléphone portable maintenant et qu'un téléphone devient un drone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est simple. Et là, Mathieu me dit, tu connais pas le projet Speedduino qui est en fait un calculateur open source. Tu lui rajoutes les sondes qui existent déjà dans ta bagnole. Tu enlèves le calculateur. Tu l'enlèves. Donc là, ce que je dis, il faut bien comprendre qu'il y a de grandes chances, j'en suis pas sûr, mais il y a de grandes chances que votre assurance, elle vous dise d'aller vous faire foutre, donc ne le faites pas. Il y a de grandes chances que le constructeur vous dise d'aller vous faire foutre bien fort, donc ne le faites pas. Et si vous le faites, en fait, branchez votre cerveau et soyez pas con. Mais tu as toutes les sondes. Et là, je vous invite à taper vite fait, là, si vous m'écoutez maintenant, Speedduino. Volumétrique. Autotune. Et là, le système, il est dingue, c'est-à-dire que le système est relativement simple. Je sais combien je dois mettre d'injecteurs par rapport à la quantité d'oxygène que j'ai dans l'air, combien j'ai de sortie du pot d'échappement, quelle est la température de mon huile, est-ce que mes phares sont allumés. Tu as toutes ces informations-là qui remontent à ce calculateur-là, que tu, après, tu peux faire ce que tu veux, c'est-à-dire que si tu veux te mettre un écran LCD, te fabriquer une Tesla pour décorer dans ta 4L, je connais quelqu'un qui le fait et c'est trop cool, c'est possible. Et là où ça va super loin, c'est que c'est compliqué à calibrer un moteur. OK, une soupape, si tu lui mets trop de comburant, trop d'oxygène et que tu déclenches une étincelle, ta soupape, elle traverse le capot, c'est moins joli. C'est joli dans Fast and Furious, le véhicule va pas très loin après, derrière. Voilà, ça arrive. Croyez-moi, ça arrive. Donc, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi. Mais le mélange, ce qu'on appelle le mélange, c'est-à-dire mon comburant, mon combustible, et l'étincelle qui fait le boum-boum. Ou au moteur électrique, j'ai envoyé tant de kilowatts dans un moteur qui fait 500 kV, 1000 kV, whatever. Donc, j'ai ce contrôle-là et j'ai la capacité de voir comment le véhicule réagit. Donc, en temps réel, je m'adapte. Et non seulement le truc qui s'adapte, mais vous savez, quand vous avez votre bagnole, peu importe la bagnole, vous avez des fois des modes sport, ce que moi j'appelle le mode Kéké Plus, que j'utilise quand je dis ça, c'est le mode, il y a que des gens à doubler, tu fais un tac-tac et c'est bon, en respectant les limitations de vitesse, bien évidemment, monsieur Darmanin, si vous nous écoutez. Le truc, c'est que ça, tu as envie de bien le calibrer. Donc, ton mode sport, en fait, c'est le mélange optimisé des reprises de vitesse au bon moment, etc. Et bien, en fait, le PID Auto-Tune de Speedduino, ça te donne ça by default. Peu importe que ton véhicule avait un mode sport ou pas un mode sport. Tu veux les clignotants à l'américaine, ça te le fait. Et c'est open source. Et donc, du coup, dans des pays, tu vois, donc nous, en Europe, encore une fois, je pense que la législation nous interdit de le faire. Mais moi, je vais dans des pays où ils récupèrent des bagnoles et ils les emmènent jusqu'à ce que le compteur, il ait fait deux fois le tour sur lui-même en termes de kilomètres. Et c'est génial. Mais quand ton calculateur, quand l'électronique vient déconner dans une bagnole moderne,
ce qui arrive souvent et rapidement dans la plupart des voitures.
Et là, tu fais comment? Tu n'as pas d'alternative. Et bien là, ce projet Speedduino, c'est exactement cette alternative où, et c'est ça qui est dingue, tu veux le faire sur un tracteur, tu le fais sur un tracteur, tu veux le faire sur une Ferrari, tu le fais sur une Ferrari. D'ailleurs, si vous avez une Ferrari et vous voulez essayer, sachez que moi, j'ai le Speedduino. Tu peux le faire avec un scooter. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux le faire en fait avec n'importe quoi qui a un contrôle sur un moteur et sur lequel tu as des capteurs. Et c'est juste extraordinaire parce que c'est une... Mathieu, il me disait, mais toi, tu connais pas ça, toi, parce qu'on est un peu côté MacGyver, les deux. Il me dit, mais tu connaissais pas ça, ça fait 10 ans que ça existe, mon con, tu vois. Oui, Mathieu parle comme ça.
Oui, c'est... là, j'ai bien reconnu Mathieu.
Tu vois. Et d'ailleurs, un gros bisou à Mathieu au passage. Et voilà, quoi. Donc, si vous connaissez pas Speedduino, vous avez envie de déconner sur, je sais pas, une petite retape de bagnole ou sur un rallye 4L ou un rallye de chevaux et que vous voulez rajouter une petite touche de geek en plus, je sais pas, pour avoir des sponsors. Je sais pas, enfin, limitless, les gars. Un projet open source comme ça, ça se prend, ça se teste. Et au pire des cas, il y a un moteur qui explose dans le garage et vous accuserez l'enfant. J'ai pas fait ça. Je sais pas, c'est pas moi.
Ta fille est un peu jeune pour que tu l'accuses de ça, Erwan.
Elle n'est pas appuyée sur le bouton.
Speedduino pour les plus aventureux, carrément.
Non, beau projet. Mais comme quoi, l'open source n'a pas de limite et c'est ça qui est cool.
Bon, et sinon, je voulais aussi parler, c'est pas techniquement de l'outillage, mais ça permet de faire peur. J'ai oublié de parler tout à l'heure, ces derniers temps, dans presque chaque épisode de Massy, on parle des fuites de données. Il semble qu'il y a une fuite de données par semaine. Mais en fait, quand j'ai dit « il semble qu'il y a une fuite de données par semaine », j'étais complètement à côté de la plaque. Il y a plusieurs par semaine. Et il y a un petit site très sympa, légèrement moqueur, qui s'appelle Bonjour la fuite, bonjourlafuite.eu.org, où vous pouvez voir les fuites de données les plus récentes. Donc, au moment où je vous parle, la dernière fuite de données date d'hier, Mondial Relais.
Ça me rappelle un moment de ma préadolescence, ce titre, là, Bonjour quelque chose. C'est vague encore dans mon...
C'est pas un rêve de tout. Voilà. Mais Bonjour la fuite, vous pouvez voir 9 mars Mondial Relais, 5 mars, plusieurs 5 mars, 4 mars, l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé de quantifier quand même la fuite, par exemple sur le Mondial Relais. Ils l'ont mis en vert. Confirmé, quoi. Et donc ils précisent que c'est fait. Après, il y en a, c'est revendiqué. Ou d'autres qui sont peu fiables. Donc, ils ont essayé quand même de...
Ah non, mais c'est... Et ils essayent de donner une idée de l'impact aussi. C'est plutôt sympa, les sites.
Et... Oui, quels sont les sites qui auraient fait des données sensibles? Ou une qui est plus légère, par exemple, Mondial Relais, c'est confirmé et c'est une fuite qu'ils appellent standard.
Une fuite standard avec l'icône que c'est une petite goutte d'eau.
C'est ça.
Ça explique pourquoi je reçois des textos vous êtes chez vous, je dois vous livrer monsieur Dussard, et en fait non, c'est du troll pur et dur, savoir s'il peut venir chez moi si je suis pas là.
C'est ça.
Bravo.
Oh, c'est pour derrière. Non, celui-là c'est plus sournois que ça. Derrière, et tu vas les appeler, parce qu'on connaît le cas d'une personne qui s'est fait avoir comme ça. Tu vas les appeler, ils vont te faire payer peut-être 50 centimes et derrière ça déclenche une arnaque au conseiller bancaire. Et c'est super redoutable, c'est beaucoup plus élaboré que ce qu'on pourrait imaginer. Non, c'est... Le montage autour de ces fuites de données peut être à plusieurs niveaux, même des gens qui sont à l'affût, ils peuvent se faire avoir. C'est assez incroyable.
Et là, une qui était plus grave, du coup, c'était celle de 21 février, données sensibles de la Fédération française d'athlétisme.
Mais il y a la Fédération française d'athlétisme, de rugby, de...
Avec tout ouais,
ça, c'est pas tout. Grave, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais maintenant, de l'athlétisme, j'en fais plus.
Mais voilà, ouais, c'est vrai que... Ouais.
Oh, mais si tu veux, tu peux voir aussi celle de 25 février sur la CAF. Et avec des données, des contacts relatifs au RSA, les noms et prénoms des bénéficiaires, etc. c'est des données qui... quelque part. Donc voilà, c'est un site à regarder, à se faire un peu peur et à se rendre compte qu'aujourd'hui, vous savez sûrement, on a sûrement tous des données qui ont fuité plusieurs fois par plusieurs canaux différents.
Ça va s'accélérer.
Ça risque de s'accélérer. Allez, qui peut me faire une petite news rapide pour finir sur une note un peu plus positive? S'il vous plaît, les amis, on ne va pas finir sur le fait que nos données sont dans la nature et on va
tous nous s'attaquer. Je sais pas, fait une nouvelle mise à jour? Non, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme bonne nouvelle dans le monde qui coule dans la tech?
Mince. Bon, bah, je vais plaider mon joker et profiter d'une petite news qu'Aurélien m'avait laissée sur la sortie d'une nouvelle version de Redis, qu'on s'en parle sur un truc neutre. Tu nous en parles, Aurélien?
Oui, très bien. Bah, c'est une nouvelle release de la version 8.6 qui va venir améliorer les performances, notamment... c'était quoi? C'était notamment côté vector, je crois, recherche vectorielle de Redis. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre?
Attends, je profite pour regarder.
Il y avait une nouvelle policy d'éviction, amélioration de performance sur les streams. Donc voilà à peu près.
Donc, basiquement, une petite nouvelle version de Redis.
C'est ça, mais c'est pas des grosses fonctionnalités hein, qui sont arrivées en 8.6, mais voilà, il y a deux nouvelles évictions policy, ça c'est intéressant pour ceux qui utilisent le Redis en mode cache, de pouvoir aller modifier ce qu'ils veulent faire, quelles sont les clés qu'ils veulent retirer de leur Redis de façon automatique.
Bon bah, je pense qu'il n'y en a plus d'autres news et moins encore d'autres news positives en stock. Donc, in open source. Et là, Erwan sera content. React, ça reste, même si ce n'est pas mon favori, le framework front le plus utilisé au monde. Et jusqu'à présent, ça appartenait à ses créateurs, c'est-à-dire à Facebook, c'est-à-dire à Meta. Et aujourd'hui, React appartient officiellement à une toute nouvelle fondation, la React Foundation, qui est dans le giron de la Linux Foundation. Donc, ce n'est pas seulement, React était open source, ça reste open source, mais maintenant la gouvernance n'appartient plus à une entreprise à Meta concrètement, maintenant ça appartient à une sous-fondation de la Linux Foundation. Et pour moi, ça c'est carrément une bonne nouvelle.
Ouais, ça c'est cool.
Donc sur ça, je peux dire que c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, Erwan, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment pour nous proposer une musique de fan qui soit intéressante et en te connaissant sûrement inattendue?
Eh bien, à défaut de jouer le Rasta Blanc, je vais vous recommander le Chant de Rose de Danakil, groupe de reggae français qui est extraordinaire. Et la musique, c'est exactement mon métier et ma vie, quoi. C'est mon Chant de Rose, Clever.
Ok, bah, tu peux me mettre les liens quand tu les trouveras, et comme ça, on est bien. Et sur les Chants de Rose, on va vous dire au revoir. Merci Ludovic, merci Aurélien, merci Erwan, c'était un vrai plaisir.
Merci à tous.
Et merci à ceux qui nous écoutent, à très bientôt.
Au revoir, merci à tous.
Parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les Chants de Rose. Visiter les places où le destin me dépose, et devant les merveilles du monde, je prendrai la pause.